13. La majorité des citoyens les plus éminents de Flint City pensaient que Howard Gold était né riche, ou du moins dans une famille aisée. Bien qu'il n'ait pas honte, loin de là, de son passé d'enfant de la balle, il ne prenait pas la peine de détromper les gens. En vérité, il était le fils d'un laboureur itinérant, parfois cow-boy ou monteur de chevaux dans des rodéos, qui avait voyagé dans tout le sud-ouest du pays à bord d'une caravane Airstream avec son épouse et leurs deux fils, Howard et Edward. Howard avait réussi à atteindre l'université, puis il avait aidé Eddie à en faire autant. Il prenait soin de ses parents, aujourd'hui à la retraite. Andrew Gold n'avait quasiment pas économisé un sou, et il lui restait largement de quoi vivre. Il était membre du Rotary et du Rolling Hills Country Club. Il invitait ses gros clients à dîner dans les meilleurs restaurants de Flint City. Il y en avait deux. Il soutenait une dizaine d'associations caritatives, dont les terrains de sport du parc Estelle Barga. Il pouvait très bien commander des vins fins et envoyer à quelques clients des coffrets cadeaux de chez Harry & David pour Noël. Mais quand il était seul dans son bureau, comme en ce vendredi midi, il préférait retrouver ses habitudes de gamin, lorsqu'il voyagea entre l'Oklahoma et le Nevada, et retour, en écoutant Clint Black à la radio et en révisant ses leçons à côté de sa mère, quand il n'allait pas à l'école quelque part. Il supposait que sa vésicule biliaire mettrait fin tôt ou tard à ses déjeuners solitaires et gras. Mais il avait atteint la soixantaine sans qu'elle se manifeste. Alors béni soit l'hérédité. Quand le téléphone sonna, il réglait son compte un sandwich aux œufs et au fromage, agrémenté d'une bonne dose de mayonnaise et de frites telles qu'il les aimait, noircies et croquantes, aspergées de ketchup. Posé sur le bord du bureau l'attendait une part de tarte aux pommes sur laquelle fondait une boule de glace à la vanille. « Howard Gold, j'écoute. »«
Ah oui, c'est Marcy. Ralph Anderson est venu me voir ce matin. »
Howie fronça les sourcils.
« Il est venu chez vous ? Il n'en a pas le droit. Il est en congé administratif. Et à supposer qu'il décide de rester dans la police, il ne reprendra pas un service actif avant longtemps. Vous voulez que j'appelle le chef Geller pour lui en parler ?»«
Non, je lui ai claqué la porte au nez. » »«
Bravo. » »«
Mais je ne suis pas tranquille. Il a dit une chose qui me tracasse. » « Répondez-moi franchement, Howard. Croyez-vous que Terry a tué ce garçon ?»«
Mon Dieu, non ! Je vous l'ai déjà dit. Il y a des preuves qui l'accusent, nous le savons, mais beaucoup d'autres affirment le contraire. Il aurait été innocenté. Mais la question n'est pas là. Terry était incapable de faire une chose pareille. Et puis, n'oublions pas ses dernières paroles. »«
Les gens diront qu'il n'a pas voulu avouer la vérité devant moi. D'ailleurs, c'est sûrement ce qu'ils disent déjà. »
« Ma pauvre, » songea Howard, « je ne suis même pas certain qu'il avait conscience de votre présence. »«
Je pense qu'il a dit la vérité, Marcy. »«
Moi aussi. Et dans ce cas, le coupable court toujours. Et s'il a tué un enfant, tôt ou tard, il en tuera un autre. »«
C'est Anderson qui vous a fourré cette idée dans la tête. »
Il repoussa ce qui restait de son sandwich. Il n'en voulait plus.
« Ça ne m'étonne pas. Culpabiliser les gens, c'est une vieille ruse de flic. » Mais il a eu tort d'essayer avec vous. Il mérite une réprimande pour ça. Un blâme dans son dossier, au minimum. Vous venez d'enterrer votre mari, nom d'un chien.
Mais ce qu'il a dit est vrai.
Peut-être, pensa Howie. Mais cela pose une question. Pourquoi vous l'a-t-il dit à vous?
Et ce n'est pas tout,
reprit Marcy.
Si la police ne retrouve pas le véritable meurtrier, les filles et moi, on sera obligés de quitter la ville. Si j'étais seul, je pourrais affronter les messes basses et les ragots, mais je ne peux pas leur imposer ça. Je ne vois qu'un seul endroit où aller. Chez ma sœur, dans le Michigan. Et ça ne serait pas juste non plus pour Debra et Sam. Ils ont deux enfants, eux aussi, et leur maison n'est pas très grande. Pour moi, cela voudrait dire repartir de zéro, et je me sens trop fatigué. Oh, oh oui, je me sens brisé.
Je comprends. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Appelez Anderson. Dites-lui que j'accepte de le recevoir à la maison, ce soir. Il pourra me poser ses questions, mais je veux que vous soyez là. Avec votre enquêteur, s'il est libre, et s'il accepte de venir. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr, si c'est ce que vous voulez. Et je suis certain qu'Alec viendra aussi. Toutefois, je tiens à vous mettre en garde. Je suis sûr que Ralph est dévasté par ce qui est arrivé. Et je devine qu'il s'est excusé.
Il m'a supplié.
C'était assez surprenant, mais peut-être pas tant que ça.
Ce n'est pas un mauvais bougre, dit Howie. C'est un type bien qui a commis une erreur. Mais n'oubliez pas une chose, Marcy. Il a tout intérêt à prouver que c'est Terry qui a tué le petit Peterson. Car dans ce cas, sa carrière repartira sur de bons rails. Si l'affaire n'est jamais résolue, il a encore une chance de sauver son insigne. Mais si jamais le vrai meurtrier réapparaît, il peut dire adieu à la police. Il se retrouvera agent de sécurité à Cap City pour un salaire 2 fois inférieur, sans même parler des procès qui lui pendront au nez.
Je sais bien, mais...
Je n'ai pas terminé. Ces questions concerneront forcément Terry. Il avance peut-être à l'aveuglette, mais peut-être pense-t-il détenir un élément qui relie Terry au meurtre, d'une manière différente. Alors, vous êtes toujours certaine de vouloir organiser cette rencontre ? Il y eut un silence. Puis Marcy dit...
Jimmy Mattingly est ma meilleure amie à Barnum Court. Elle a gardé les filles après l'arrestation de Terry. Mais maintenant, elle ne répond même plus quand je l'appelle. Et elle m'a rayé de la liste de ses amis sur Facebook. Ma meilleure amie m'a officiellement renié.
Elle reviendra.
Oui, si on retrouve le vrai meurtrier. À ce moment-là, elle reviendra à genoux. Peut-être que je lui pardonnerai d'avoir cédé à la pression de son mari, car c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez en être sûr. Ou peut-être pas. C'est une décision que je ne peux pas prendre dans la situation actuelle. C'est ma façon de vous dire, allez-y, organisez cette rencontre. Vous serez là pour me protéger, et M. Pelley aussi. Je veux savoir pourquoi Anderson a eu le courage de venir frapper à ma porte.
14. Cet après-midi-là, vers 16h, un vieux pick-up Dodge roulait bruyamment sur une route de campagne à 20 km au sud de Flint City, en soulevant un panache de poussière. Il passa devant une vieille éolienne aux pales brisées, un ranch déserté, percé de trous lumineux là où se trouvaient les fenêtres autrefois. Un cimetière abandonné depuis longtemps, surnommé localement le cimetière du cow-boy, et un gros rocher sur lequel quelqu'un avait peint ce message à moitié effacé « Trump, make America great again ». À l'arrière du pick-up, des bidons de lait en fer roulaient et venaient heurter les parois du plateau. Au volant, un garçon de 17 ans nommé Dougie Elfman ne cessait de jeter des coups d'œil à son portable en conduisant. Quand il atteignit la Highway 79, il avait 2 barres de réseau et il estima que ce serait suffisant. Il s'arrêta à l'intersection, descendit du pick-up et regarda derrière lui. Rien, évidemment. Malgré tout, il se sentit soulagé. Il appela son père. Clark Elfman répondit dès la deuxième sonnerie.
« Les bidons étaient bien dans la grange ?»«
Ouais, » répondit Dougie. « J'en ai 2 douzaines, mais faudra les nettoyer, ils sentent encore le lait caillé. »«
Et leur vachement ?»«
Il y avait plus rien, papa. »«
Ah, c'est pas la meilleure nouvelle de la semaine, mais je m'y attendais. »« Pourquoi tu m'appelles, fiston ? Où tu es ?» On dirait que t'es sur la face cachée de la lune.
Je suis sur la 79. Écoute, papa, il y a quelqu'un qui s'est installé dans la grange.
Quoi? Tu veux dire des vagabonds ou des hippies? Non, il y a pas plein de trucs qui traînent, genre des boîtes de bière, des emballages ou des bouteilles d'alcool, et personne n'a chié dans les parages, à moins qu'ils aient marché 500 mètres jusqu'aux buissons les plus proches.
Aucune trace de feu de camp non plus.
Dieu soit loué,
dit Elfman.
Vu comme c'est sec. Qu'est-ce que t'as trouvé alors? Même si ça n'a pas d'importance, étant donné qu'il n'y a plus rien à voler et ces vieux bâtiments à moitié écroulés valent plus un clou.
Dougie continuait à regarder derrière lui. La route paraissait déserte, mais il aurait bien aimé que la poussière retombe plus vite.
J'ai trouvé un jean qui avait l'air neuf, un slip jockey neuf aussi, et des baskets super chères, celles qui ont du gel à l'intérieur, comme neuve elle aussi. Sauf que toutes ces affaires étaient couvertes de taches de je sais pas quoi. Pareil pour le tas de foin où je les ai trouvés.
Du sang?
Non, pas du sang. En tout cas, le foin est devenu tout noir.
De l'essence? De l'huile pour moteur? Un truc dans le genre?
Non, ce truc n'était pas noir, il y avait juste le foin. Je sais pas ce que c'était.
En revanche, les taches durcies sur le jean et le slip, Dougie savait à quoi ça ressemblait. Il se masturbait 3 fois, voire 4 fois par jour depuis l'âge de 14 ans. Et il balançait la purée dans un vieux morceau de serviette qu'il rinçait ensuite au robinet du jardin en l'absence de ses parents. Parfois, il oubliait, et le morceau de serviette devenait tout dur. Mais là, il y en avait beaucoup. Vraiment beaucoup. Et franchement, qui irait éjaculer sur une paire d'Adi Powers toute neuve? Des pompes super classe qui coûtaient plus de $140, même chez Wally World. Dans d'autres circonstances, Dougie aurait peut-être eu l'idée de les emporter, mais pas avec ce truc dégueu dessus. Et aussi à cause de l'autre chose qu'il avait remarquée.
« Bah, laisse tomber et rentre à la maison, »
dit son père.
« Au moins t'as récupéré les bidons. »«
Il faut que tu préviennes la police. Il y avait une ceinture sur le jean, avec une boucle argentée en forme de tête de cheval. »
« Je comprends rien à ton histoire de ceinture, fiston. »
« Aux infos, ils ont dit que Terry Maitland portait une ceinture comme celle-là lorsque les gens l'ont vu à la gare de Dubrow, quand il a tué ce pauvre gosse. »«
Ils ont dit ça ?»«
Ouais, papa. »«
Merde alors. Reste où tu es. Je te rappelle. Je suppose que les flics vont répliquer. Je vais venir aussi. »«
Dis-leur de me retrouver chez Beadle. »«
Beadle ? C'est presque à 10 bornes vers Flint. »«
Je sais, mais je veux pas rester ici. »
La poussière était retombée. Il n'y avait rien à voir. Malgré cela, Dougie ne se sentait pas rassuré. Pas une seule voiture n'était passée sur la route principale depuis qu'il parlait avec son père. Et il voulait aller dans un endroit où il y avait des gens.
Qu'est-ce qui ne va pas, fiston?
Quand j'étais dans la grange, là où j'ai trouvé ces vêtements, j'avais déjà récupéré les bidons et je cherchais ce harnachement que tu m'avais parlé. Et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, comme si quelqu'un m'observait.
T'as eu les jetons, c'est tout. L'homme qui assassinait ce garçon est bien mort.
Je sais, mais dis aux flics que je les attends chez Beadle. Je les emmènerai sur place, mais je veux pas rester tout seul ici.
Il coupa la communication avant que son père ait le temps de protester. 15. Le rendez-vous avec Marcy fut fixé à 20h le soir même chez les Maitland. Ralph reçut par téléphone le feu vert de Howie Gold, qui lui annonça qu'Alec Pelley serait présent également. Ralph lui demanda s'il pouvait amener Yunel Sablo, si celui-ci était disponible.
« Hors de question, »
répondit Howie.
« Si vous amenez le lieutenant ou n'importe qui d'autre, y compris votre charmante épouse, j'annule tout. »
Ralph accepta. Il n'avait pas le choix. Il s'occupa dans la cave pendant un petit moment, c'est-à-dire qu'il déplaça des cartons d'un endroit à l'autre avant de les remettre à leur place. Il toucha à peine à son dîner. Deux longues heures s'étiraient encore devant lui. Il repoussa sa chaise. « Je vais rendre visite à Fred Peterson à l'hôpital. »«
Pourquoi ?»«
Ça me semble normal. »«
Je t'accompagne si tu veux. »
Ralph secoua la tête. « J'irai directement à Barnum Court ensuite. »«
Tu t'épuises. Tu te mets la rate au courbouillon, » aurait dit ma grand-mère.
« Ça va. Je tiens le coup. » Sa femme lui adressa un sourire qui indiquait qu'elle n'était pas dupe, puis se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser.
« Appelle-moi. Quoi qu'il arrive, appelle-moi. »
Il sourit. « Pas question. Je reviendrai tout te raconter de vive voix. » 16. En entrant dans le hall de l'hôpital, Ralph croisa l'inspecteur en congé, qui ressortait. Jack Hoskins était un homme frêle, aux cheveux prématurément gris, avec des poches sous les yeux et un nez sillonné de veines rouges. Il portait encore sa tenue de pêche, chemise et pantalon kaki, doté d'innombrables poches. Mais il avait accroché son insigne à sa ceinture.
« Qu'est-ce que tu fabriques ici, Jack? Je te croyais en vacances. »
« On m'a rappelé 3 jours plus tôt. J'ai débarqué en ville il n'y a pas une heure. Mon épuisette, mes cuissardes, mes cannes et tout mon matos sont encore dans la camionnette. Le chef se disait qu'il aimerait bien avoir au moins un inspecteur sous la main. » Betsy Riggins est au 5e en train d'accoucher. Le travail a commencé en fin d'après-midi. J'ai parlé à son mari qui dit qu'il y en a encore pour longtemps. Comme s'il pouvait le savoir. Quant à toi,
il marquait une pause pour donner plus de poids à ses paroles.
Tu es dans un sacré pétrin, Ralph.
Jack Hoskins ne faisait aucun effort pour masquer sa satisfaction. Un an plus tôt, on avait demandé à Ralph et à Betsy Riggins de remplir des formulaires d'évaluation concernant Jack, en vue d'une éventuelle augmentation de salaire. Betsy, celle qui avait le moins d'ancienneté parmi les inspecteurs, avait répondu ce qu'il fallait. Ralph, lui, avait remis le formulaire au chef Galler après avoir écrit juste 2 mots. Pas d'avis. Cela n'avait pas empêché Hoskins d'obtenir son augmentation. Il s'agissait d'un avis malgré tout. Hoskins n'était pas censé voir les évaluations, mais évidemment, le commentaire de Ralph lui était revenu aux oreilles.
Tu es allé voir Fred Peterson ?
Exact.
Jack fit saillir sa lèvre inférieure et souffla, soulevant quelques mèches éparses sur son front.
Il y a des moniteurs partout dans sa chambre, mais les courbes ne s'agitent pas beaucoup. Ça m'étonnerait qu'il se réveille.
Bon courage pour la reprise.
Fais chier. Il m'a resté 3 jours. Ça mordait de tous les côtés, j'ai même pas eu le temps de changer de chemise. Elle pue le poisson. J'ai reçu des appels du chef Galler et du shérif Doolin. Faut que je me tape le chemin jusqu'à ce bled paumé qu'on appelle Canning Township. J'ai cru comprendre que ton pote Sablo était déjà sur place. Je parie que je serai pas chez moi avant 10 ou 11 heures.
Ralph aurait pu répondre « J'y suis pour rien ». Mais sur qui d'autre ce bon à rien qui attendait la retraite pouvait-il rejeter la faute? Sur Betsy, tombée enceinte en novembre dernier?
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Canning? Un jean, un slip et des baskets. Un gamin les a découverts dans une cabane ou une grange en cherchant des bidons de lait pour son père. Et aussi une ceinture avec une boucle en forme de tête de cheval. Évidemment, le labo mobile sera déjà sur place. Et moi, je serai aussi utile que des pies à un taureau. Mais le chef...
Il y aura des empreintes sur la boucle de ceinture, le coupa Ralph. Et des traces de pneus laissées par la camionnette ou la Subaru. Ou les deux.
Tu vas pas m'apprendre mon métier. Je portais déjà un insigne d'inspecteur quand tu te trimballais en uniforme.
Le sous-entendu était évident. Et je serai encore inspecteur quand tu bosseras comme vigile dans un centre commercial. Jack s'en alla.
Ralph se réjouit de le voir partir.
Il regrettait seulement de ne pas pouvoir se rendre à Canning Township lui aussi. À ce stade, de nouveaux indices pouvaient se révéler précieux. Point positif, Sablo était déjà sur place et il superviserait l'unité de la police scientifique. Ils auraient quasiment fini leur travail le temps que Jack arrive et sabote des indices comme il l'avait déjà fait en 2 occasions au moins, à sa connaissance. Il monta d'abord au service maternité, mais tous les sièges de la salle d'attente étaient inoccupés. Alors peut-être que l'accouchement se déroulait plus vite que l'avait prédit Billy Riggins, nerveux et novice en la matière. Ralph aborda une infirmière et la pria de dire à Betsy qu'il lui souhaitait bonne chance.
« Je lui dirai dès que je pourrai, » répondit l'infirmière, « mais elle est très occupée pour l'instant. Ce petit bonhomme semble pressé de sortir. »
L'image du corps ensanglanté, violenté de Frank Peterson traversa brièvement l'esprit de Ralph, et il songea « Si ce petit bonhomme savait à quoi ressemble ce monde, il se débattrait pour rester dans le ventre de sa mère. » Il reprit l'ascenseur afin de se rendre aux soins intensifs, 2 étages plus bas. Le dernier représentant de la famille Peterson se trouvait dans la chambre 304. Son cou, entouré d'un épais bandage, était immobilisé par une minerve. Un respirateur artificiel produisait un sifflement régulier. L'espèce de petit accordéon à l'intérieur se déployait et se rétractait. Comme l'avait dit Jack Hoskins, les courbes qui s'affichaient sur les moniteurs disposés autour du lit étaient peu actives. Il n'y avait aucun bouquet de fleurs dans la chambre. Ralph devinait que c'était interdit en soins intensifs. Mais 2 ballons gonflés à l'hélium, accrochés au pied du lit, flottaient près du plafond. Dessus étaient imprimées de joyeuses exhortations que Ralph n'avait pas envie de regarder. Il écouta le sifflement de la machine qui respirait à la place de Fred. Il regarda les tracés sur les écrans et repensa aux commentaires de Jack.
« Ça m'étonnerait qu'il se réveille. »
Alors qu'il était assis à côté du lit, un souvenir datant de l'époque du lycée lui revint en mémoire. Quand ce qu'on appelait maintenant les études environnementales n'était encore que les sciences de la Terre, tout bonnement. Ils avaient étudié la pollution. Monsieur Grieur avait pris une bouteille d'eau minérale Poland Spring et en avait rempli un verre. Il avait invité une élève, Misty Trenton, avec ses délicieuses mini-jupes, à s'avancer jusqu'au bureau pour en boire une gorgée. Ce qu'elle avait fait. Monsieur Grieur avait alors pris un compte-goutte et l'avait plongé dans une bouteille d'encre Carter, et il avait versé une goutte dans l'eau. Les élèves, fascinés, avaient regardé cette goutte solitaire descendre dans le verre en laissant un tentacule couleur indigo derrière elle. Monsieur Grieur avait agité le verre et très vite, toute l'eau avait pris une teinte bleutée.
« Est-ce que tu la boirais maintenant ?» avait-il demandé à Misty.
Elle avait secoué la tête si vigoureusement qu'une de ses pinces à cheveux était tombée et tout le monde, y compris Ralph, avait ri. Aujourd'hui, il ne riait plus. Moins de 15 jours plus tôt, les Peterson étaient une famille parfaitement heureuse, puis était arrivée la goutte d'encre pollueuse. On pouvait dire que c'était à cause de la chaîne du vélo de Frankie Peterson et qu'il serait rentré chez lui sain et sauf s'il ne s'était pas brisé. mais il serait rentré sain et sauf également en poussant son vélo au lieu de rouler avec, si Terry Maitland n'avait pas attendu sur le parking de l'épicerie à ce moment-là. La goutte d'encre, c'était Terry, pas la chaîne de vélo. C'était Terry qui avait pollué, puis détruit l'ensemble de la famille Peterson. Terry, ou celui qui apparaissait sous ses traits.
« Si tu enlèves les métaphores, » avait dit Jenny, « il te reste l'inexplicable, le surnaturel. »
Mais ce n'est pas possible. Le surnaturel n'existe que dans les livres et les films, pas dans le monde réel. Dans le monde réel où des ivrognes incompétents comme Jack Hoskins ont droit à des augmentations de salaire. Tout ce que Ralph avait pu connaître en presque 50 ans d'existence niait cette idée, jusqu'à la possibilité même d'une telle éventualité. Pourtant, en regardant Fred, ou ce qu'il en restait, il devait reconnaître qu'il y avait quelque chose de diabolique dans la façon dont la mort de ce jeune garçon s'était propagée, n'emportant pas seulement un ou deux membres de cette famille nucléaire, mais la totalité. Et les dégâts ne se limitaient pas aux Peterson. Nul ne pouvait mettre en doute que Marcy et ses filles conserveraient des séquelles toute leur vie, peut-être même un handicap permanent. Ralph pouvait se dire que toutes les atrocités s'accompagnaient de semblables dommages collatéraux. N'en avait-il pas été témoin à maintes reprises? Si. Mais ce cas était plus personnel, d'une certaine manière. Un peu comme si ces gens avaient été visés. Lui-même ne faisait-il pas partie des dommages collatéraux? Et Gianni? Et Derek, qui allait rentrer de colonies de vacances pour découvrir qu'un grand nombre de choses qu'il tenait pour acquises, le travail de son père par exemple, se trouvait maintenant menacé? Le respirateur artificiel sifflait. La poitrine de Fred Peterson se soulevait et retombait. De temps à autre, il produisait un bruit bizarre ressemblant à un ricanement. Comme si tout cela était une gigantesque plaisanterie, compréhensible seulement quand on était dans le coma. Ralph ne pouvait en supporter davantage. Il quitta la chambre, et quand il atteignit l'ascenseur, il courait presque. 17. Une fois dehors, il s'assit sur un banc, à l'ombre, et appela le poste. Sandy McGill répondit. Et lorsque Ralph lui demanda si elle avait des nouvelles en provenance de Canning Township, il eut un silence. Puis, visiblement gêné, Sandy expliqua.
« Je ne suis pas censé évoquer ce sujet avec vous, Ralph. Le chef Geller a laissé des instructions précises. Désolé. »«
Ce n'est pas grave, » répondit Ralph en se levant. Son ombre s'étirait devant lui, l'ombre d'un pendu. Et bien évidemment, il repensa à Fred Peterson. « Les ordres, c'est les ordres. »«
Merci pour votre compréhension. » Jack Hoskins est revenu. Il va se rendre sur place.
Très bien. Il coupa la communication et se dirigea vers le parking de l'hôpital en se disant que ça n'avait pas d'importance. Yunel le tiendrait informé. Probablement. Il monta dans sa voiture et brancha la clim. 7h15. Trop tard pour rentrer, trop tôt pour se rendre chez les Maitland. Il ne lui restait plus qu'à traîner en ville, au hasard, tel un adolescent nombriliste. En se posant des questions. Pourquoi Terry avait-il appelé Willow Rainwater « Madame » Pourquoi avait-il demandé où se trouvait le centre médical le plus proche, alors qu'il avait toujours vécu à Flint City? Pourquoi avait-il partagé une chambre d'hôtel avec Billy Quaid? Une sacrée chance. Pourquoi s'était-il levé pour poser une question à Harlan Coben? Ça aussi, c'était une chance. En s'interrogeant sur la goutte d'encre qui teignait de bleu l'eau dans le verre, sur les empreintes de pas qui s'arrêtaient subitement dans le sable, sur les asticots qui grouillaient à l'intérieur d'un melon qui semblait bon vu de l'extérieur. En songeant que si on commençait à envisager des explications surnaturelles, on ne pouvait plus se considérer comme totalement sain d'esprit, et que s'interroger sur sa santé mentale n'était peut-être pas très bon signe. C'était comme penser à son rythme cardiaque. Cela voulait peut-être déjà dire qu'il y avait un problème. Il alluma la radio, et chercha une musique forte. Finalement, il tomba sur les Animals, qui braillaient « boum, boum ». Il roula en ville, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de se rendre au domicile des Maitland à Barnum Court. Enfin !